bienvenue pour une nouvelle émission Un bout de chemin ensemble. Comme tous les 15 jours, vous êtes avec Isabelle Gonce et nous abordons ensemble des sujets qui vous touchent, des sujets qui concernent le développement personnel, la psychologie et qui aident à se sentir mieux dans sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du magnétisme avec Gérard Grenet qui est guérisseur, bioénergéticien et magnétiseur et radiesthésiste à Paris. Bonjour Gérard Grenet.
Bonjour Isabelle.
Bienvenue sur Radio Anguien. Nous
Merci.
Sommes aujourd'hui également avec Paul à la technique et nous allons passer donc 1h30 ensemble pour parler de magnétisme, de bioénergie et pour découvrir toutes ces techniques, si je puis dire, qui sont encore un petit peu mystérieuses, qui paraissent parfois un petit peu magiques à certains et on va essayer de démystifier tout ça ensemble. Alors Gérard Grenet, je crois que c'est la première fois que vous venez à Radio Anguien.
Tout à fait.
Mais vous êtes par contre habitué des médias, vous avez déjà participé à des émissions à la télévision, à la radio également.
Oui, tout à fait aussi. Oui,
oui récemment.
Avec beaucoup de plaisir parce que ça me donne l'occasion de pouvoir communiquer ce qui me passionne, ce qui m'anime au quotidien et d'essayer de pouvoir éveiller, très modestement je dis ça, mais les gens qui nous écoutent.
D'accord. Alors, le magnétisme, bon, tout le monde en a vaguement entendu parler, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On en a parfois une idée un petit peu mystérieuse, sulfureuse. On pense également au rebouteux. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Enfin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le magnétisme? Nous l'expliquer de façon simple.
Alors, simplement, on pourrait dire que le magnétisme, si on le pratique de la bonne façon, on va être un facilitateur, on va être un transfuseur d'énergie. Si on considère, encore faut-il valider cette croyance, si on considère que nous vivons dans une énergie dite universelle, nous baignons dedans, le magnétiseur va être cette personne qui va avoir cette faculté particulière de pouvoir capturer, capter, arriver à installer à l'intérieur de son corps cette énergie à saturation pour pouvoir, dans le bon moment, la transférer, la transfuser à la personne qui en manque. Ça, c'est la bonne méthode. La méthode que je contesterai davantage, c'est d'utiliser sa propre réserve d'énergie vitale, de force vitale, de magnétisme naturel humain, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir installer des troubles. Si le magnétiseur qui utilise sa propre énergie est en mal-être, ou malade simplement, il risque de transférer, de transfuser quelque chose de pas terrible au consultant. Donc je recommande toujours aux gens qui suivent mes formations que on vient capter et transfuser une énergie universelle dans laquelle nous baignons et on ne vient pas chercher sur ses propres réserves personnelles.
Parce que finalement, l'énergie, elle a différentes sources, comme vous semblez dire. On peut la trouver en soi-même, on peut la trouver dans l'univers, dans le ciel, dans l'eau, dans je ne sais quoi.
L'énergie, on la trouve absolument partout. L'énergie, avant tout, c'est de l'information. La lumière est énergie, le soleil qui transmet cette lumière est énergie. Nous vivons par l'énergie. L'énergie, on pourrait dire que c'est une grande banque de données, un transfert d'informations. Rien que quand on respire, quand on inspire, on inspire ce qu'en Ayurveda on appelle le prana. Le prana, on inspire de la lumière et on inspire aussi de l'énergie, c'est-à-dire différentes informations. Du reste, on inspire aussi des minéraux, des vitamines, un tas de choses en inspirant. L'énergie, c'est multifactoriel. C'est extrêmement riche et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vivre. Alors, on parlera beaucoup plus dans le corps humain d'énergie électromagnétique. C'est-à-dire que on peut considérer que cette énergie électromagnétique, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de bouger et de penser. Hein, on a une structure, une structure mécanique qui est le squelette, on va avoir des organes de fonction dessus, des muscles, mais quel est le carburant? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça puisse s'animer? Eh bien, c'est justement cette énergie, cette captation qu'on va avoir par différents capteurs naturels qui sont installés dans nos corps subtils, pas notre corps physique, nos corps subtils, c'est-à-dire les différents corps qui sont à l'extérieur de notre corps physique. On a différents capteurs qu'on peut appeler chakras, parce que ça vient du sanskrit, ça vient du monde de l'Inde, on n'a pas de traduction française ou européenne. Mais en gros, ces chakras sont des centres énergétiques majeurs qui viennent capturer cette énergie extérieure et la transformer en énergie intérieure. On pourrait dire ça très très simplement.
Vous pouvez nous rappeler le nombre de chakras un petit peu et puis leur situation dans le corps ? Les chakras,
on en a beaucoup sur tout le corps, les mains, les pieds, dans beaucoup d'endroits, mais on va en trouver 7 majeurs qui correspondent à différents corps subtils. On va trouver, par exemple, si on part du bas du corps, on va trouver à l'aplomb du coccyx, on va trouver le chakra racine, celui qui tient lieu d'ancrage à la terre, celui qui va capter directement les courants telluriques, les ions négatifs de la terre. Ensuite, on va remonter au niveau pubien où on va trouver le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la force vitale, c'est la force sexuelle, c'est le carburant qu'on utilise quand on fait quelque chose d'important, quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être un gâteau pour nos enfants, comme quelque chose de tout à fait professionnel ou autre. On va à l'endroit de ce chakra aussi, on va avoir ce fameux creuset dans lequel on va impliquer notre vie. On va créer, qu'est-ce que j'invente pour moi ? Hein, ça se situe aussi dans cette zone-là. En montant un petit peu plus haut, on va trouver le centre du haras, pas loin du nombril, où on va trouver le chakra solaire. Lui, on peut considérer que c'est un chakra de transformation. Transformation des matières, des aliments, certes, par la digestion, mais aussi transformation des émotions. C'est vraiment notre cerveau numéro 2, notre centre émotionnel, et il est important qu'il soit toujours en bon équilibre. Au-dessus, on va avoir le chakra du cœur, au niveau du cœur, lui qui nous connecte carrément à l'amour. L'amour avec un grand A, hein, parce que nous, ici en Europe, l'amour, on a généralisé, hein, on a fait quelque chose de très court. Pensez qu'en Ayurveda, pour le mot amour, on a 96 mots différents. Hein, entre j'aime oui. Le chocolat, j'aime mon fils, j'aime ma femme, j'aime le shopping et j'aime les Ferrari. Le mot j'aime change de fréquence complètement.
Donc en sanskrit.
En sanskrit
ouais.
C'est ce qui montre un petit peu l'intérêt des différentes sociétés. On voit que, par exemple, ce monde de l'Asie, c'est vraiment pencher vers ces énergies, vers qu'est-ce que l'amour ? L'amour universel, c'est-à-dire l'énergie universelle. Oui. Nous, en pays européens, on a développé la technique, le savoir, mais on a beaucoup moins développé, par exemple, l'amour. On a un mot, E96. On voit l'intérêt qu'on a pu les uns et les autres orienter. Oui. Je continue avec mon histoire de
oui,
chakra.
Les chakras, on remonte.
Au-dessus
alors
du chakra du cœur, on va avoir le chakra de la gorge. Qui va, lui, être un chakra de communication. Est-ce qu'on dit aussi facilement non que oui ? Est-ce qu'on a un argumentaire fluide ? Tout ce qu'il y a donc... en gros, oui, c'est vraiment la communication. Encore à l'étage supérieur, entre les deux yeux, on va avoir Ajna chakra, on va avoir, c'est-à-dire le frontal. Ce fameux troisième œil. Ce fameux troisième œil, la résurgence intuitive, le troisième œil qu'on va retrouver très actif chez la voyante. Et enfin, au dernier étage, sur le dessus de la tête, on va avoir le chakra coronal. Ce chakra coronal, on pourrait dire que c'est le lien avec l'univers, le lien avec la source. Tout à l'heure, on parlait d'énergie universelle. Eh ben, pour ma part, en tout cas, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais pour ma part, tout à fait, on a une seule énergie qui va venir de l'univers, dont qui est canalisée, qui est vectorisée par le soleil, qui est un relais de l'univers. Cette énergie arrive vers nous non différenciée. Elle va ensuite être différenciée en différents canaux, différents vecteurs. À nous de pouvoir rentrer en fréquence avec ces vecteurs, à nous d'être organisés énergétiquement le mieux possible et de pouvoir avoir en permanence un équilibre énergétique. Si on a un équilibre énergétique, on va avoir un équilibre de bien-être, de santé assez linéaire.
D'accord. Alors donc, on a parlé des 7 chakras qui viennent effectivement de la culture indienne, enfin hindoue, sanskrit. Est-ce que ça veut dire que le magnétisme s'inspire essentiellement de cette culture indienne ? Ou est-ce qu'il y a d'autres influences également, ou d'autres cultures où on retrouve des choses similaires ?
Alors le magnétisme s'inspire de toutes les cultures en fin de compte, parce qu'on trouve le magnétisme dans toutes les cultures. Hein, on trouve même des bas-reliefs égyptiens, on trouve enfin un petit peu partout, sur tous les continents. L'homme a très vite pu constater qu'en imposant ses mains sur la douleur, en prenant quelqu'un dans ses bras parce qu'il pleure, parce qu'il est déséquilibré, parce qu'il est dans le chagrin, immédiatement on sentait une différence, une amélioration de l'état. Donc de toutes les civilisations, de tous les continents, on a pratiqué le magnétisme sans pour cela l'appeler forcément magnétisme.
Par exemple le chamanisme, est-ce qu'il y a des choses communes entre le magnétisme et ce qu'on peut trouver dans le chamanisme des Indiens ou autres ?
Le chamanisme particulier indien que moi j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé par ça dans ma vie, à m'intéresser à ces choses, pratique évidemment le magnétisme. On va moins parler du mot technique magnétisme, on va parler davantage de transfert, on va parler davantage d'amour. Le chamanisme, lui, va utiliser un état de transe méditative pour se connecter à la nature, aux plantes, etc., pour recevoir un message, une orientation, une induction de soins.
D'accord. Alors, je voulais faire un petit peu la distinction entre magnétisme et radiesthésie. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est deux notions proches? Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est la radiesthésie, là, pour le coup?
Alors, pour ma part, je dirais que ces deux notions sont proches par le fait que, déjà, au départ, pour pouvoir pratiquer ces arts, on doit avoir une certaine faculté de captation. La plupart des gens qui pratiquent la radiesthésie ou le magnétisme sont tous médiums avec une aura à haute vibration, donc sont, on emploie souvent le mot canal, sont très affûtés dans ce fait de pouvoir capturer des informations. Ensuite, c'est un choix d'outils. On va préférer travailler en magnétisme, on va être plus dans l'accompagnement de personnes, ou alors on va plutôt travailler en radiesthésie. Pour ma part, je travaille les deux, et j'incite tous les gens qui sont étudiants dans mes ateliers de transformation de connaissances, tous ceux qui suivent ces cours-là, j'incite tout le monde absolument à pratiquer ces deux méthodes, parce que l'une est complémentaire de l'autre. La radiesthésie, en schématisant au plus court, on pourrait dire que ça vient du latin radius, radiation, vibration, et du grec esthésie, sensation. Donc, ça veut dire que le praticien, l'opérant en radiesthésie, est quelqu'un qui a une grande sensibilité aux vibrations, aux radiations. Alors, quelle vibration, quelle radiation, me direz-vous, Isabelle?
Est-ce que c'est ce que l'on trouve, par exemple, chez les sourciers, avec la petite baguette de bois pour trouver de l'eau?
Tout à fait. Un sourcier, c'est un radiesthésiste, ouais. Et un radiesthésiste, en général, peut être facilement devenir sourcier, quand il n'est pas déjà de fait les deux.
D'accord. Donc ça va avoir un lien avec, effectivement, la Terre, l'énergie de la Terre, mais aussi de...
Alors ça a un lien toujours avec ce monde de fréquence, ce monde de vibration, puisque le sourcier arrive à rentrer en fréquence directement avec l'eau, par exemple. S'il recherche, en général, un sourcier recherche des sources, de l'eau, il a cette faculté d'avoir une connexion très facile avec la fréquence de l'eau. C'est exactement comme votre radio FM, hein. C'est exactement la même chose. Il suffit de trouver la bonne fréquence et on va trouver le minéral, le pétrole, l'objet qu'on a perdu, etc., etc. Hein, la radiesthésie, on va l'employer quand on a utilisé les moyens traditionnels de recherche et que on n'aboutit pas. On ne sait plus comment faire pour trouver telle ou telle chose. En général, on va appeler un radiesthésiste.
Alors justement, cette perception un petit peu des ondes, des vibrations, de cette faculté de capter l'énergie, est-ce que tout le monde l'a? Est-ce que nous sommes tous plus ou moins capables de développer cette faculté de magnétiseur? Ou est-ce qu'il faut à la base avoir un don héréditaire ou un don, une faculté particulière? Est-ce que c'est donné à tout le monde?
Écoutez, moi je dirais, Isabelle, que tout le monde sait courir, tout le monde ne devient pas marathonien. Donc on a tous une sensibilité. On a tous une certaine forme d'intuition. Il est vrai que certains niveaux de conscience vont permettre un accès plus facile. Alors là, je vais tenir un discours assez ésotérique, mais je considère que quelqu'un qui a eu des vies antérieures répétées, relativement nombreuses, a pu acquérir une certaine élévation de son niveau de conscience. Donc une élévation de son taux vibratoire d'aura, par exemple. Donc une captation... Une faculté, on va dire, bien appropriée à pouvoir faire du magnétisme et de la radiesthésie, que d'autres n'auront pas. Une jeune âme avec peu de vie antérieure aura moins de facilité. Mais on est quand même beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le croire à avoir cette faculté naturelle à percevoir, à rentrer en connexion avec des fréquences ou des informations. Dans tous les cas de figure, faudra un training, faudra travailler. Si on prenait l'exemple de notre grand musicien Mozart, Mozart, d'accord, il est très doué, il a une grosse faculté au départ, mais il travaille. très vite, il a des très bons résultats. Eh ben, c'est un petit peu la même chose avec le magnétisme ou la radiesthésie. Quelqu'un qui a cette faculté médiumnique à recevoir un flux dense d'informations, s'il est un petit peu cadré, éduqué, et s'il s'entraîne, parce que c'est l'expérimentation qui va amener le talent, très vite va déboucher sur un niveau assez intéressant. Maintenant, le don, on lui fait dire beaucoup de choses à ce mot. C'est un mot un petit peu sulfureux. Moi, on me le dit souvent. Ah oui, mais vous, c'est particulier, vous avez le don. Je ne sais pas si j'ai le don. Moi, je pense que j'ai toujours été très sérieux, très travailleur. Je m'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en s'entraînant comme ça, avec les expérimentations répétées et les résultats qui viennent suite aux expérimentations, on finit par être de moins en moins dans le doute. Dès l'instant qu'on n'est plus dans le doute, on va se rapprocher d'un niveau intéressant. Croire, c'est recevoir. Dès l'instant qu'on va croire à 100%, on va recevoir à 100%. Et le doute va s'effacer. Dès l'instant que le doute s'efface, je pense que on peut peut-être flirter avec quelque chose qui ressemble au don.
Alors racontez-nous un petit peu justement dans votre cas, comment vous en êtes arrivé là. Je crois que vous avez commencé par un métier complètement différent et aux antipodes du métier, disons, de guérisseur, de magnétiseur. Et quel a été votre parcours pour en arriver là ?
Alors tout à fait Isabelle, moi j'ai commencé ma vie comme tout un chacun, j'étais bien cadré par rapport à mon éducation et aux grandes lignes de la société que je pouvais avoir perçues, c'est-à-dire je pensais que réussir dans la vie c'était travailler dans les affaires. Moi j'étais graphiste, designer, je travaillais dans un monde beaucoup plus bling bling, basé sur l'apparence. J'ai très vite réussi puisque très jeune j'avais une entreprise qui fonctionnait très bien, mais j'arrivais pas à me positionner en tant que personne humaine dans ce cheminement de société. Je travaillais dans mes affaires, l'entreprise fonctionnait bien, je gagnais de l'argent, j'étais envié par beaucoup d'amis puisque la réussite était là, installée, très jeune, mais j'arrivais pas à trouver ce souffle, cette motivation de vie. Je trouvais que ma vie n'avait pas un sens particulier. Et en fin de compte, j'ai fait, comme beaucoup de gens, très travailleurs, j'ai fait un burn-out. C'est un terme qu'on utilise maintenant. Mais un burn-out, c'est simplement un grand état de fatigue, un surmenage excessif, un contexte émotionnel, personnel aussi, et une grande fatigue. Et je suis tombé en dépression, très gravement, puisque j'ai été obligé d'aller à l'hôpital.
Là, vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais pas 30 ans.
Ah oui ?
J'avais pas 30 ans, très jeune. Et au sortir de l'hôpital, j'étais très abîmé. Et j'ai pu aller en convalescence en province, dans le sud, près de Cassis. Et là, ma seule activité, c'était d'aller courir dans les montagnes au mieux possible. Quand je dis courir, je trottais, j'arrivais plus à courir. J'étais marathonien au départ, avant le problème de santé, et après, je trottinais. La nature, les jours successifs, cette espèce de sas, je sentais que je passais un sas, je sentais qu'il se passait quelque chose pour moi dans la vie, je me suis posé les grandes questions et j'ai reçu, alors je vais essayer que ça soit pas trop sulfureux, mais comme une forme de message, en tout cas une affirmation m'est venue en tête, cette affirmation c'était voilà, je suis guéri et ma vie ça va être me tourner vers un autre monde, celui des autres.
Et vous avez eu des rencontres, des gens sur votre chemin qui vous ont permis d'avoir un peu cette révélation ou ce changement ?
Dès l'instant que j'ai pu m'apercevoir que j'étais intéressé par tout à fait autre chose que précédemment, les rencontres se sont multipliées. Elles sont venues à moi d'une façon extraordinaire, sans qu'en fin de compte je fasse trop d'efforts. Et très très vite, déjà j'ai été suivi par un magnétiseur qui m'a beaucoup aidé pour sortir de cet état de déconstruction. On parle dans mon métier d'énergie déconstructive et d'énergie constructive. J'étais absolument en déconstruction et lui m'a aidé à me reconstruire. Et au fur et à mesure des visites, je le voyais très régulièrement, ce monsieur. Il me répétait souvent, mais tu es magnétiseur, tu peux être radiesthésiste, tu as ce don. Lui, il parlait facilement du don, il aimait bien le côté un peu magique, entre guillemets, du mot. J'étais un peu dubitatif, et puis en fin de compte, un beau jour, il m'a mis sur le fait de faire un soin, on appelle comme ça dans nos métiers, d'aider une dame qu'entendait plus, une dame très âgée, qu'entendait plus depuis le matin. Et j'ai pu imposer mes mains, faire, en fin de compte, je n'ai fait que répéter ce que lui me faisait régulièrement. Et j'ai pu voir qu'effectivement, cette dame qu'entendait plus depuis une journée s'est mise à entendre tout de suite. Ça a validé une croyance, ça m'a positionné, ça m'a réconforté. Et depuis, j'ai cessé ma quête d'études, de transmission de connaissances, comme j'en fais moi maintenant pour les autres. Mais je continue moi-même, de toute
à
façon.
Vous former,
Voilà, je serai un éternel étudiant.
Vous êtes parti dans différents pays également pour voir ce qui se pratiquait ailleurs.
Tout à fait, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai travaillé d'abord avec pas mal de chamans en France. J'ai été aux États-Unis, j'étais au Canada, j'ai été dans différents pays d'Europe. Et j'ai pu apprendre différentes techniques. J'ai fait des années d'Ayurveda, j'ai fait du Chinetsang, j'ai appris les massages du monde. Beaucoup de techniques. J'ai fait une école de naturopathie, j'ai été réflexologue, sophrologue.
Ah oui, ça fait beaucoup de choses.
J'ai fait beaucoup de choses et je continue à faire beaucoup de choses qui m'intéressent. Le but étant toujours d'affûter l'outil, d'être au meilleur sensible et d'apporter le meilleur accompagnement possible.
Parce que pour vous, tout ça est complémentaire et le magnétisme, ça ne se pratique pas comme ça de façon isolée. C'est tout un style de vie, un ensemble, une approche globale.
Ouais, c'est tout à fait une approche globale. C'est un complément aux soins allopathiques, hein, parce que ça, j'encourage toujours les gens, les futurs magnétiseurs et consultants qui viennent me voir, à tout le temps être en référence avec le monde allopathique, le monde de la médecine. Je fais aucun accompagnement de bien-être aux gens s'ils ne sont pas suivis par leur médecin. Et on est un facilitateur de cette installation du consultant sur son chemin de guérissage.
D'accord. Très bien. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie, écouter un petit peu de musique et ensuite on aura le témoignage d'une personne qui a essayé le magnétisme et on
D'accord.
continuera l'émission. Oui, bonjour Jacqueline, vous êtes avec nous ?
Oui, bien sûr.
Bonjour, merci d'accepter de témoigner de votre expérience du magnétisme.
Oui.
Alors on va se donner le temps de voir 3-4 questions, hein, 5 minutes à peu près. Voilà, comment avez-vous commencé à vous tourner vers le magnétisme et puis pour quelles raisons et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement ?
Eh bien, le magnétisme m'a apporté, c'est-à-dire que je faisais comment dirais-je, je m'excuse, je ne suis pas toute jeune, alors je cherche mes mots. Je faisais du stress.
D'accord.
Et alors, et puis après j'ai fait un zona.
Mm-hmm.
Si bien que je suis venue, j'ai cherché, puis enfin bref, j'ai eu plusieurs magnétiseurs à Paris.
Oui.
Et j'ai retrouvé M. Grenet qui était très bien, voilà.
Et donc, il vous a été indiqué par quelqu'un, peut-être, par
oui,
le bouche à oreille.
C'est le bouche à oreille. Hein.
Oui. Donc, vous aviez un problème de zona, c'est-à-dire des.
J'avais un problème de zona, et alors, il m'a enrayé, puisque maintenant, je suis à la fin. Et puis, bref, comme je me fais soigner par l'homéopathie, je ne veux pas du tout l'allopathie, donc je suis allée vers M. Grenet pour qu'il me soigne. J'ai des problèmes nerveux. Je suis pas tout à fait, oui, je suis pas tout à fait bien, mais enfin d'un autre côté, je suis beaucoup mieux maintenant depuis que je le connais.
D'accord. Donc vous avez fait combien de séances à cette époque? C'était il y a combien de temps? C'était longtemps?
Oh bah il y a quelques temps déjà.
Oui.
Ça fait quelques mois. Hein. C'est pas nouveau. Hein.
D'accord. Vous avez fait plusieurs séances ou une seule?
Ah oui, j'ai fait plusieurs séances. Parce que, vous savez, le magnétisme, ça ne se fait pas en une fois. Hein. D'abord, faut que la personne vous connaisse. Moi, il commence à me connaître maintenant puisque. Il me soigne tout, il me soigne le foie, il me soigne les yeux puisque j'ai la macula. Donc, il me soigne beaucoup de choses. Hein. J'ai eu ce stress, j'ai eu ce. Comment dirais-je je trouve plus mes mots. J'ai eu donc le stress, et puis après j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu donc
Le zona, ça c'est
le zona, et puis après j'ai eu une grosse opération, enfin je me suis fait opérer d'un sein. Voilà.
D'accord.
Et donc là, il m'a aidé très sérieusement à accepter cette opération. Voilà.
D'accord. Donc, dans votre cas, ça a joué à la fois sur des facteurs psychologiques, comme le stress, et puis des facteurs physiques aussi.
Je ne peux pas définir, mais quand je sors de ces soins, je suis beaucoup mieux, je me sens très détendue.
Vous le sentez tout de suite en sortant du soin?
Ah oui, tout de suite. Je me sens tout de suite, et puis ça dure quelques jours, bien sûr, et puis après, bon, moi, je suis toujours tendue. Mmh. Alors, le fait, c'est que je voudrais que je me détende, que je me relaxe beaucoup, mais comme je ne le fais pas, alors évidemment que j'ai besoin de vivre plus souvent, voilà.
D'accord. Alors, pendant les séances, est-ce qu'on sent quelque chose pendant que le thérapeute...
Vous ne sentez rien, non. C'est-à-dire qu'avec ses mains, il vous... De loin, oui, les mains sont à peu près à 10 cm du corps.
Mmh.
Et puis, il vous dit de vous relaxer complètement, c'est-à-dire de se détendre à fond.
On est dans un état un peu semi-endormi ou
non,
pas?
Non, pas du tout, non, pas du tout. On est réveillé. Soi-même, mais seulement, c'est un peu comme le yoga, j'imagine. On se détend complètement, c'est-à-dire qu'on se relaxe complètement.
Et là, vous y arrivez, alors que vous qui êtes généralement stressé.
Eh bien oui, c'est
là, vous y arrivez.
Alors là, je me relaxe, et puis à partir de là, il me soigne, il me passe ses mains à 10 cm du corps, à peu près 20 cm seulement. Mais il me soigne le foie aussi, il me soigne tout l'état général.
D'accord.
Alors, quand je me relève, je suis, si vous voulez, un peu engourdi, même pas engourdi.
Sur un petit nuage, un peu?
Non, pas du tout.
Non?
Pas du tout, non, mais très, très détendu.
Très détendu, d'accord.
Très détendu.
D'accord. Et alors, est-ce que de vous-même, chez vous, vous arrivez un petit peu à retrouver parfois cet état de détente, ou là, c'est plus difficile?
Oui, c'est-à-dire qu'ils me disent de faire beaucoup de choses que je ne fais pas.
Ah.
C'est-à-dire que je devrais me détendre.
Comme quoi, par exemple?
Eh bien, par exemple, je vis toute seule.
Oui.
Alors, évidemment, que quand on ne parle pas à quelqu'un, vous êtes tendu sur des souvenirs, sur... Et alors là, c'est pour ne pas revenir sur l'arrière, pour aller sur l'avant.
D'accord.
Voilà. Le problème, il est là, c'est que...
Aller de l'avant, toujours, oui.
Je vais toujours à l'arrière, moi.
Ah.
C'est ça qui est terrible.
D'accord. Donc, vous ruminez des choses.
Alors, alors, de temps en temps, je me dis, M. Grenier m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Bon, alors, je me remets un peu dans l'état de... Enfin, je me sens nettement mieux, hein, parce que quand je l'ai connue, j'étais très tendue. Je pleurais tout le temps. D'ailleurs, chez moi, j'ai pleuré tout le temps. Tandis que là, maintenant, je suis très décontractée.
Bon, bah super. Donc, vous avez trouvé un équilibre que vous entretenez régulièrement.
Ah, voilà, c'est ça.
Mm-hmm. Parfait. Bah, écoutez, merci. Vous voyez autre chose que vous aimeriez partager avec nous?
Ben non, simplement que je suis très contente de l'avoir rencontré, parce que j'en avais connu un autre ou deux, mais qui n'avait pas la même valeur énergétique que M. Cornet.
D'accord, voilà. D'accord. Oui, il faut trouver la personne qui vous convient, qui sent bien les choses.
Il est très sérieux dans ses soins, et puis il a certainement une puissance magnétique plus forte que tout le monde, hein, c'est ça, je pense. Hein. Parce qu'on sent, quand il passe ses mains, même à 10 cm, on sent une chaleur. Hein.
Ah oui, on sent une chaleur quand même.
Ah,
oui.
On sent une chaleur, ah ben bien sûr.
D'accord, d'accord.
Et moi, quand il m'a soigné mon zona, on sent qu'il prend votre mal. Il prend votre mal pour vous rétablir, voilà.
Mm-hmm.
Je ne peux pas définir, hein, parce que c'est difficile. Mais enfin, je sais qu'il est, comment dirais-je... Et puis ça, moi, je vous dis, j'ai plus de mémoire, je suis âgée, alors ce n'est pas facile.
Ah, bah, écoutez, merci d'avoir témoigné, en tout cas.
C'est... Non, mais je suis très contente de l'avoir rencontré.
Oui.
Même, vous voyez, chaque fois que j'ai une amie, je dis allez voir, parce que vraiment, il mérite d'être rencontré, parce qu'il est très capable. Voilà, c'est surtout ça.
Ok, super.
Vous avez des gens qui vous disent allez voir, et puis en fin de compte, ce sont des charlatans, mais dis pas du tout. Hein.
Ouais, ouais. Ouais, merci beaucoup, Jacqueline. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, si
oui,
vous voulez bien. Voilà,
merci.
On va reprendre l'antenne.
Oui.
Bon, bah écoutez, donc vous avez là une patiente qui est très satisfaite, une dame assez âgée apparemment. Quel est le profil des gens qui viennent vous voir, Gérard Grenet? Est-ce que vous avez aussi des jeunes, même peut-être des enfants, des adolescents parfois ou...
On va retrouver chez le magnétiseur absolument tous les profils qu'on peut trouver dans la société, tous les âges et toutes les conditions sociales, vraiment. On vient voir le magnétiseur de nos jours un petit peu pour, j'allais dire, tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais évidemment parce que on n'est pas bien dans son corps, on a un problème particulier d'état de santé, et je reprécise encore... Dès l'instant qu'on est suivi par un médecin,
oui,
c'est possible.
C'est important, oui.
Voilà, parce que j'ai de temps en temps des gens qui viennent me voir, qui me disent, de toute façon, je ne verrai aucun médecin, je veux que ce soit que vous. Je leur dis, bah, je suis désolé, mais ce ne sera pas moi du tout. Quand vous m'aurez expliqué et prouvé que vous avez été voir un médecin qui a vraiment posé un diagnostic, qui vous a vraiment pris en soin, là, je vais sans problème amener le complément. Mais sinon, pour répondre directement à votre question, ouais, on va avoir des gens qui sont dans l'angoisse, dans le stress, à cause du travail, à cause de la vie professionnelle en général ou de la vie personnelle, les grands choix, les grandes anxiétés, les grandes peurs, peur de manquer d'argent, peur de vieillir, peur de la mort, qu'on connaît tous en fin de compte. Hein, et ça touche tout le monde. Chez le magnétiseur, on va avoir des gens de toutes les conditions sociales. Hein, j'ai des gens qui sont avocats, traders, des gens qui sont très dangereux. dans le mental, dans le cerveau, dans la réussite professionnelle, dans la carrière, comme je vais avoir des gens qui sont salariés sur une chaîne de montage ou artisans, commerçants. Et les âges, c'est tous les âges. C'est évident qu'on va avoir une proportion de personnes âgées souvent touchées par l'arthrose, par tous ces problèmes du vieillissement
humain. Mais ça peut aider aussi pour les problèmes ostéo-articulaires, l'arthrose
et tout
ça.
Tout à fait. Alors, que là aussi, c'est intéressant. Voilà, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, par exemple, l'arthrose, on ne guérit pas l'arthrose. On va amener un soutien, une mobilité, une fluidité dans les mouvements et on va descendre la douleur. Voilà, on va descendre la douleur très, très, très sensiblement et amener vraiment une meilleure mobilité. Ce que souvent recherche la personne, le consultant. Hein. Le consultant, il a mal, il peut plus bouger. Voilà, il vient vous voir et dès l'instant qu'il peut bouger sans douleur, il sera satisfait. Mais on va avoir donc une grosse proportion de personnes âgées, certes, touchées par tous ces maux de l'âge, mais on a aussi des gens en pleine activité, comme on a des enfants. Des enfants, des adolescents, bien sûr. Alors, concernant évidemment les enfants, les ados, il va de soi que c'est systématiquement accompagné de leurs parents. Il faut qu'il y ait au moins présent, tout le long de la consultation, un parent.
Est-ce que ça peut aider aussi dans des problèmes d'addiction, par exemple le tabac, l'alcool ou le cannabis pour les jeunes?
Tout à fait. On en a de plus en plus assez bien ouvert sur ce plan-là, parce que dans les domaines de l'addiction, bon, ce qu'on va rencontrer beaucoup, c'est l'alcool et la cigarette. Et la cigarette s'est déclinée maintenant aux drogues, cannabis, etc. Et c'est assez fréquent. Ça devient fréquent, en tout cas sur Paris, moi où je travaille, ça devient assez fréquent de voir des gens venir pour du cannabis, pour des drogues comme ça. Et on emploie pratiquement la même logique que pour toutes les addictions.
Je pense aussi, par exemple, à des problèmes de peau, d'allergies, de choses comme ça. Est-ce que ça, vous voyez des gens, ça peut agir aussi sur ce genre de problème?
Bien sûr, on va avoir, alors dans les grands problèmes de peau, il y a le psoriasis, il y a l'eczéma, il y a le zona, dont nous parlait Jacqueline tout à l'heure au téléphone. Ça, c'est du fréquent. Du reste, on a pas mal de soignants, de médecins qui nous envoient ces gens en complémentarité au traitement et c'est assez efficace.
Vous travaillez donc parfois main dans la main avec des médecins qui vous envoient des correspondants, qui vous envoient des patients.
On fait souvent beaucoup de polémiques entre les gens des médecines auxiliaires, des médecines parallèles et le monde de la médecine allopathique. Souvent, on encourage, on jette de l'huile sur le feu pour que ça aille moins bien. Mais en réalité, ça va très bien. Dès l'instant que chacun reste à sa place, le médecin reste le médecin. C'est la référence de santé en France. Et on peut tout à fait concevoir que des gens comme les magnétiseurs radiesthésistes sont tout à fait un accompagnant, une complémentarité énergétique aux soins allopathiques, bien sûr.
Alors, on va voir un petit peu concrètement comment ça se passe. Donc, une première séance, par exemple, ça dure combien de temps et comment se passe déjà la première phase, le diagnostic? Je crois que c'est une phase très importante. La personne vient avec une demande, en général, ou pas, peut-être?
Alors, la plupart du temps, Isabelle, les gens viennent avec une demande. Du reste, moi, je leur demande, à la prise de rendez-vous, déjà, je leur demande, vous venez me voir pourquoi, quelle est votre demande, qu'est-ce qui vous occupe? Donc là, je vais avoir ce que j'appelle, moi, une partie de l'information. C'est-à-dire que, par exemple, la personne va me dire, je viens vous voir parce que je dors plus et j'ai un problème d'addiction avec l'alcool, par exemple. Donc ça, ça va organiser la séance. Dans ce genre de contexte, je vais préconiser une séance assez longue, 1h30 pour la première fois, au moins, pour la première séance, pour pouvoir bénéficier d'un certain temps d'échange, de parole, un temps d'anamnèse. L'anamnèse, c'est ce temps qu'on va prendre ensemble pour échanger, communiquer. L'anamnèse, c'est un petit peu l'art de faire dire à la personne ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait, en fin de compte. Voilà. L'aider à aller au bout des choses, à aller en amont de la résurgence somatique. Quelqu'un qui dort pas, il dort pas. Pourquoi? Si j'essaie de l'aider à un meilleur sommeil en zappant complètement les causes, je vais avoir un résultat vraiment pas intéressant et qui tiendra pas dans le temps. Par contre, si je l'aide à voir les causes, ça va être très différent. Le diagnostic, il est complètement réservé au médecin. Donc le diagnostic a été fait par le médecin. Moi, je vais pouvoir me positionner en fonction de ce diagnostic, en fonction de ce que va pouvoir me dire la personne dans cette conversation de l'anamnèse. des questions que je vais pouvoir lui poser, de la confiance qui va s'installer entre elle et moi, parce que faut...
Est-ce qu'à ce niveau-là, vous utilisez des outils spécifiques aussi qui peuvent être ceux du magnétiseur, le pendule par exemple, ou une sensation un petit peu moins rationnelle, on va dire, que simplement la parole? Quels sont vos outils pour faire ce diagnostic? Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais...
On va utiliser plusieurs outils, effectivement, lors de ce partage avec le consultant. Il va y avoir la parole, l'échange verbal. Moi, je vais voir aussi son comportement, son attitude, comment il va se positionner dans le divan. Je regarde son visage et je vais me connecter, on peut employer ce mot-là, à cette personne. Donc, évidemment, je vais ouvrir mon intuition. Je vais essayer de capter un petit peu cette personne pour essayer de, au-delà des mots, sentir comment elle fonctionne en plus, ou comment elle ne sait pas qu'elle fonctionne. Parce qu'il y a toujours une part de vérité. Il y a la vérité qu'elle connaît, la vérité qu'elle veut bien me dire, la vérité qu'elle va soigneusement occulter ou qu'elle a volontairement oubliée. Beaucoup de gens vont pratiquer l'évitement, etc. Mon travail, c'est d'arriver à reconstituer ce puzzle par tous les outils que je peux avoir.
Alors, quels sont ces outils, justement?
Alors,
vous aviez un gros cahier avec des tas de schémas, de couleurs, de diagrammes, etc. Est-ce que peut-être on peut en citer un ou deux qui sont vraiment importants?
Alors, tout à fait. Durant cette séance, je vais finir immanquablement par prendre mon pendule et prendre mon classeur d'ABAC. Un ABAC, effectivement, c'est un diagramme de référence, c'est un croquis qui va nous permettre d'obtenir une réponse pendulaire affinée. La réponse pendulaire, de façon générale, c'est oui ou non. Avec un oui ou un non, une réponse binaire, comme ça, on serait très limité dans l'affinement des réponses. Donc, on a créé des dessins, des abacs. Du reste, je suis toujours en création, en recherche de nouveaux abacs pour affiner encore mieux mes investigations radiesthésiques. Et par exemple, cette personne, je vais vérifier le taux vibratoire de son corps physique, le taux vibratoire de son corps éthérique. Ça va me donner une idée de sa force vitale, de son état de force vitale générale. Ça va me donner une idée de son centrage. Je vais prendre le taux vibratoire de son stress. Je vais prendre le taux vibratoire de sa force vitale pure. Je vais prendre le taux vibratoire des chakras majeurs. On en parlait tout à l'heure. Je vais voir s'ils sont en harmonie. S'ils
Donc
ont
ça,
une
vous
fréquence.
Le faites à l'aide du pendule?
Alors là, je vais travailler abacs, avec mon classeur d'abac.
Ouais.
Et le pendule, bien sûr.
Et la personne en face de vous.
Et la personne en face de moi. Donc je vais me connecter à cette personne simplement en la regardant. Ou mieux encore, ce que je préfère souvent, je vais poser ma main gauche sur sa main droite. La main gauche étant la main à polarité négative, la main qui capte. Et la main droite, la main à polarité positive, celle qui émet.
D'accord. Hein,
parce qu'on est tous émetteurs-récepteurs. Et donc je viens amener le maximum de chance de mon côté pour pouvoir réceptionner cette personne, m'installer sur sa fréquence et à l'aide de mes abacs, obtenir le maximum de renseignements qui vont orienter, positionner le soin que je vais faire ensuite.
D'accord. Alors vous refaites ça au début de chaque séance ou peut-être la deuxième fois c'est un petit peu moins long que la première parce qu'il y a des choses qui ne changent pas d'une fois sur l'autre?
Voilà, bien souvent, en général, la première séance va durer 1h30 parce qu'il nous fallait ce temps de conversation, il nous fallait ce temps d'un check-up radiesthésique pour situer un petit peu la personne sur son chemin de vie, dans quel contexte émotionnel, nerveux, etc. Et puis ensuite, il y a le soin. C'est vrai que si on doit se revoir ensuite, en général, on va prendre qu'une heure de rendez-vous, voire même moins, même trois quarts d'heure de rendez-vous. Hein ? Quelqu'un qui a un zona, si on prend l'exemple de Jacqueline, un zona, pour la première séance, je vais affectionner, c'est vrai, d'avoir plutôt 1h30 pour comprendre comment cette personne a construit, a organisé son zona, puisque c'est elle qui l'a organisé, ce zona, par un contexte émotionnel, un contexte nerveux, un contexte de stress. Donc c'est important que je puisse comprendre comment elle l'a organisé et que surtout elle identifie bien comment elle l'a organisé. Ensuite, le check-up au pendule pour vérifier certains vecteurs avec précision. Le soin terminé, on revient vérifier les mêmes vecteurs au pendule pour voir si le soin s'est bien positionné, parce qu'on va pouvoir vérifier la qualité du soin. Ça, c'est quand même important. C'est important aussi pour le consultant de voir que ça a bougé.
Oui.
Là, on va arriver sur l'effet placebo. L'effet placebo est effectivement très important. On chahute souvent les gens comme moi avec l'effet placebo. On nous dit, mais vous faites rien, c'est juste un effet placebo. Évidemment, je conteste tout à fait cette version. On fait vraiment quelque chose, mais on utilise aussi l'effet placebo naturel.
Comme tout le monde, comme avec les médicaments, il y a aussi un effet placebo.
Bien sûr.
Il y en a
quand
toujours,
on choisit, quand on doit se faire opérer, on va choisir tel chirurgien, telle clinique. Pourquoi ? C'est bien l'effet placebo aussi, ça. Mmh. L'effet placebo est très important, et un consultant qui voit que les différents vecteurs qui ont été mesurés avant le soin ont changé et se sont nettement mieux positionnés, améliorés, et d'autant plus confiant et va entretenir un effet positif dans la suite de ces événements de vie.
Alors, entrons dans la séance, justement, pour dire un petit peu comment ça se passe. Je crois qu'on reste habillé, hein, et que généralement, vous ne touchez pas trop les gens, d'après ce que j'ai cru comprendre. On reste un petit peu à distance.
Voilà, tout à fait. Moi, je suis pas un toucheur. Dans nos professions, on parle de toucheur. Il y a des magnétiseurs qui vont travailler plus en application, c'est-à-dire qu'ils posent la main. Moi, je trouve qu'en application, je suis moins bon. Je reste souvent à une certaine distance, on va dire de très très proche, à 2 cm, 1, 2, 3 cm, jusqu'à 10 ou 20 ou 30 cm du corps. La personne est allongée sur une table de soins, type table de massage, reste habillée. Et je vais pouvoir travailler comme ça, me déplacer. Je vais la mettre dans un état de relaxation que je vais commenter.
Vous parlez pendant la séance ?
Alors, je vais parler en début de séance pour l'installer dans cet état de relaxation. Je vais faire un genre de guidage. Hein. Je vais lui demander de se détendre, d'étendre sa tête, etc. Je vais faire un commentaire très logique. Je vais parcourir le corps. On va passer aux épaules, aux bras, aux mains, au dos, aux jambes pour finir par les pieds. Quand je vois qu'effectivement, cette personne commence à lâcher, commence à se détendre, je vais laisser libre cours à mon induction magnétique.
Et là, l'idéal, c'est peut-être de ne pas parler pour ne pas être trop dans le mental pendant le soin.
Et là, tout à fait, parce que si vous voulez, j'essaye qu'elle puisse lâcher prise, se mettre dans un état de relaxation, c'est-à-dire qu'elle va descendre son taux vibratoire, sa focale mentale. Quand on est dans la pensée, dans l'actif, comme nous deux, là en ce moment, Isabelle, si on mesure le taux vibratoire de notre cerveau, on va voir qu'on est sur une fréquence bêta, c'est-à-dire que notre cerveau va mesurer entre 15 et 30 Hz, c'est-à-dire qu'il vibre 15 à 30 fois par seconde. Là, on est en onde bêta, on est en onde mentale. Pour pouvoir travailler en magnétisme, il faut que le patient, le consultant et le magnétiseur soient en onde alpha, c'est-à-dire beaucoup plus bas. L'onde alpha, on pourrait dire que c'est entre 7, 8 et 15 Hz. 7, 8 à 15 vibrations secondes.
Donc deux fois moins.
Deux fois moins. Du reste, on constate très bizarrement que cette fréquence de 7, 8 Hz est exactement celle de la vibration terrestre, hein, ce qu'on appelle la vibration de Schumann. Et on peut considérer que quand on est dans cette focale, dans cette vibration de Schumann, aussi bien le consultant que le magnétiseur, on est totalement en mode inconscient. C'est plus le conscient mental qui travaille, c'est le mode inconscient. Le consultant comme moi-même, on sait toujours quel jour on est, ce qu'on fait, quelle heure il est et ce qu'on est en train de réaliser. Mais c'est plus le mental qui nous donne l'information. C'est le non-mental. Ce qui va amener un état vibratoire tout à fait spécifique à transfuser le magnétisme.
Oui, c'est un état qu'on va rechercher aussi, je crois, dans la cohérence cardiaque, dans la sophrologie.
Voilà,
dans
tout à fait. C'est le fameux état sophronique du sophrologue, l'état de méditation, l'état de contemplation. Hein, vous allez près du lac d'Enghien, je crois qu'il n'est pas loin. On va regarder les canards sur le lac, on va s'asseoir sur un banc et on va se laisser aller à respirer tranquillement dans une douce contemplation. Et on va voir que sous 20-25 minutes, on va passer d'onde bêta en onde alpha. On sera dans cet état sophronique.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez un peu plus de mal, des personnes qui ne rentrent pas du tout dans le processus, soit parce qu'elles avaient envie de venir et finalement ça ne marche pas, ou parce qu'elles ont été poussées peut-être par leur entourage à venir, et des gens qui ne sont pas très réceptifs finalement, et avec qui vous obtenez finalement de moins bons résultats ?
Alors ça arrive de temps en temps, même parfois assez souvent, parce qu'on va avoir des consultants qui viennent en traînant les pieds, amenés par leur femme ou leur mari. Hein, voilà. On va avoir des consultants qui ont erré de thérapeutes en soins, en hôpitaux, et qui n'ont pas trouvé la réponse à leur mal-être, et qui finissent par venir voir un magnétiseur, faute de mieux. Donc, ils traînent les pieds, ils sont souvent plus effrayés qu'autre chose, à vrai dire, parce qu'ils n'ont pas démystifié, ils ne savent pas ce que c'est, et bien souvent, l'humain qui ignore un domaine a souvent peur de ce domaine. Donc mon travail dans ce cas-là, c'est d'installer un dialogue, de rester vraiment calme et de rassurer la personne. Je vais essayer en quelques mots de lui expliquer ce que je vais faire, de quelle façon ça se passe. Je lui montre bien la table, comment il va être allongé, il va être simplement relax, tranquille, au mieux possible. Alors parfois, c'est pas du tout possible, parce que si la personne est réfractaire, elle est au contraire très tendue. Franchement, j'y arrive à peu près tout le temps. Les gens voient que je suis de bonne foi et au travers de mes explications, souvent, ils finissent par me croire. Et vous savez, on s'installe en tant que sauveteur, hein, un médecin, un pompier, quelqu'un de la Croix-Rouge ou autre, on est des sauveteurs. Et dès l'instant où vous portez crédit, que vous croyez votre sauveteur, vous êtes déjà dans un état de calme proche, hein, il vous arrive un problème dans la sur la circulation publique, dès l'instant que quelqu'un va venir, vous met une couverture sur vous et vous dit je suis sauveteur, je m'occupe de vous, vous le croyez et déjà vous êtes rassuré, c'est déjà ça va mieux. Faut arriver à mobiliser les gens, à être reconnus en tant que ce sauveteur, et dès l'instant qu'ils amènent un certain crédit à ce que vous leur dites, le soin va pouvoir s'installer.
Alors est-ce qu'il y a des fois quand même où ça peut être nuisible, dangereux ou un petit peu risqué, je ne sais pas, je pense à, dans le cas de certaines maladies ou chez certaines personnes, est-ce que c'est de toute façon sans danger ou est-ce qu'il y a quand même, ça peut parfois être dangereux?
Pour ma part, dès l'instant qu'on se tient dans une déontologie bien stricte, qu'on fait ce qu'on doit faire et surtout pas le contraire, il n'y a pas spécialement de danger. Faut simplement pas s'éparpiller, faut savoir ce qu'on fait, faut être bien au courant de l'état de santé de la personne quand c'est du soin. Le pire qu'on puisse faire en magnétisme, c'est rien, je pense. Voilà, une séance de magnétisme mal faite aura pas de conséquences. Il se passera rien derrière. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être quand même vigilant, parce qu'il y a un tas de gens qui peuvent parfois prétendre à être magnétiseurs. Hein. Ouais. On connaît chez les plombiers les bons et les mauvais plombiers. Chez les magnétiseurs, il y a les bons et les mauvais. Partout, il y a des humains, il y a des gens de compétences différentes, de bonne foi différentes. Il faut être vigilant à ça. Et c'est vrai que, avant tout, un magnétiseur, c'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de foi. Ça n'a pas de connotation religieuse, hein, c'est une certaine forme de foi. Il est dans l'amour avec un grand A, hein, c'est une fréquence, l'amour, c'est quelque chose qui existe. Dès l'instant que vous voyez que cette personne est plutôt dans le pouvoir, dans quelque chose qui ressemble à l'abus de quelque chose, faut se méfier. Voir aussi un magnétiseur en mal-être qui fait quand même des consultations, effectivement, faut
pas. Il peut transmettre à ce moment-là des choses négatives aux patients.
Bien sûr, parce que dès l'instant qu'on travaille en magnétisme, comme en radiesthésie du reste, on installe une passerelle, un pont vibratoire entre le consultant et le praticien. Cette passerelle vibratoire est un libre échange d'informations entre les deux personnes. Alors, elle est faite pour que du praticien partent de bonnes informations, des énergies constructives pour le consultant. Mais si c'est un petit peu le foutoir sur la passerelle, il faut faire attention.
D'accord. Bon, je vous propose de refaire une petite pause musicale et puis on va prendre un autre témoignage juste après. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bonjour, merci d'accepter de témoigner à Radio Anguien. Merci beaucoup. Alors dites-nous, comment êtes-vous allé vers le magnétisme, pour quelles raisons? Vous-même, vous avez d'abord consulté et ensuite vous vous y êtes intéressé pour aller plus loin, je crois. Hein.
Alors, j'étais déjà intéressée très jeune, en fait.
Oui.
Et donc, j'ai eu connaissance des conférences de Gérard qui menait à son cabinet. Donc, j'ai toujours eu un attrait en particulier, un intérêt bien spécifique pour ce domaine.
Oui.
Et donc, effectivement, le fait d'assister à ces conférences a encore plus éveillé ma curiosité, mon intérêt. Et j'ai pu donc rencontrer Gérard et par la suite, vouloir le rencontrer en consultation privée pour...
Au départ, vous aviez une demande particulière? Vous aviez quelque chose dans votre vie que vous aviez envie de régler? Enfin, si vous voulez bien nous en parler.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On va dire que j'étais dans une période de ma vie un peu de remise en question. J'étais au chômage, j'avais plus de travail. Donc on va dire que j'avais à peu près 30, 31 ans.
Oui.
Et une envie de j'étais plus axée sur mon développement personnel, une remise en question, cette phase de chômage. une vie sentimentale un petit peu chaotique également, donc beaucoup de choses, beaucoup de questions.
Oui.
Et bah forcément, ça apporte un manque de confiance en soi, des problèmes de stress, de sommeil comme tout le monde peut rencontrer. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui va me diriger vers la médecine, enfin, prendre des médicaments pour régler ce genre de problème. Donc, ayant toujours eu des ressentis, j'ai écouté mon intuition, donc j'ai été consulter Gérard.
Oui.
Et donc, on a travaillé ensemble quelques temps, et de fil en aiguille, on a rétabli un petit peu tout ça, j'ai repris confiance en moi, j'ai retrouvé du travail.
Dans le même domaine, finalement, vous êtes restée dans votre domaine d'origine ou...
Tout à fait, oui, je suis restée. Moi, je suis actuellement comptable, je suis restée dans mon métier. Mm-hmm. J'ai trouvé donc très vite du travail. Les choses se sont mises en place de façon très naturelle et très fluide dans ma vie, sans blocage, sans heurte.
D'accord.
Donc, on a continué dans cette voie-là.
Donc, vous continuez à faire des séances pour vous de temps en temps, des séances d'entretien, si je puis dire, oui.
Tout à fait, oui, d'entretien pour être sur, énergétiquement toujours sur une bonne fréquence.
D'accord. Et par ailleurs, donc, vous avez eu envie d'aller plus loin pour devenir éventuellement thérapeute vous-même ou simplement par curiosité pour,
devenir thérapeute un jour, peut-être, qui sait, mais je n'en suis pas encore là. En fait, donc, par le biais de ces consultations, j'ai voulu en connaître un petit peu plus et j'ai assisté donc à toutes les formations que propose Gérard. Et effectivement, donc je pratique, on va dire, pour le moment, donc déjà pour mon intérêt personnel. Et puis après, ça va être, je travaille avec des gens de ma famille, des amis. Oui. Ça reste dans un cadre familial, amical.
D'accord, vous entraînez, quoi.
Voilà, tout à fait, exactement.
C'est important, l'entraînement.
C'est très important, sans entraînement, on peut arriver à des choses, mais c'est très long, c'est fastidieux. Et plus on s'entraîne, et plus on est assidu dans ce qu'on fait, et plus c'est fluide. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on ressent moi je sais que plus je travaille, plus je ressens que c'est plus facile d'accès, plus rapide. Donc ça motive à continuer à travailler et à être régulier dans nos efforts. Mais c'est vrai que ça demande un effort, du travail, de la rigueur. Et quand on voit les résultats, c'est très motivant.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous voyez autre chose à rajouter ? Vous aimeriez partager autre chose ?
À rajouter, rien de particulier, mais moi, c'est vrai que ça m'a permis d'acquérir quand même une certaine confiance en moi qui me permet aujourd'hui de m'affirmer dans mon travail, dans ma vie. C'est vraiment une question de confiance et d'affirmation de soi, vraiment apprendre à connaître qui on est, à déterminer ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Et c'est vraiment une question d'affirmation, de confiance. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Mm-hmm. Et puis évidemment, après, quand il y a un petit bobo, c'est on va dire, on a d'abord appel à ce genre de méthode avant de forcément prendre des médicaments quand c'était pour des petits soins, des petits bobos de la vie quotidienne. Quand on voit que ça fonctionne,
on n'a plus besoin d'autant de médicaments, on va dire.
Voilà, mais bon, il faut que ça reste aussi, raisonnable, pas non plus complètement occulter la médecine traditionnelle, mais c'est vrai que ça facilite.
C'est un bon complément.
Un bon complément et c'est vrai qu'on fait un travail sur soi, il y a un développement personnel qui est tel que ça permet, la vie de tous les jours est beaucoup plus simple, on a d'autres façons, une autre façon de voir la vie, de voir les choses, et donc on aborde les petits soucis, les petits tracas de la vie quotidienne vraiment différemment.
De façon plus légère, plus ouverte, plus légère.
Beaucoup plus légère, plus ouverte, beaucoup plus détachée, on dédramatise beaucoup, et on s'aperçoit très vite que, on gâche la vie parce qu'il pleut, parce qu'il fait pas beau, c'est l'hiver, mais... Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on commence à travailler dessus et ainsi de suite. Et on voit que ça fonctionne, qu'on se sent mieux. Mm-hmm. Donc, on rentre un petit peu dans une démarche qui est très positive et qu'on peut appliquer à d'autres soucis plus importants de la vie quotidienne. Ça permet vraiment le lâcher-prise de travailler là-dessus. Et on voit vraiment les choses différemment, beaucoup plus lumineux que la plupart des gens en général.
Ok, super. Merci beaucoup, Aurore. Merci de votre témoignage. Restez avec nous jusqu'à la fin si vous le souhaitez.
Bien sûr, évidemment.
Voilà. Merci, à bientôt, au revoir. Alors, Gérard, je reviens vers vous. Donc, encore un beau témoignage, effectivement, d'une approche qui n'est pas complètement miraculeuse, mais qui aide à mieux vivre et à se sentir mieux dans sa vie. Alors, il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est que vous aidez des gens parfois uniquement par téléphone, des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Comment ça peut s'expliquer avec l'énergie qui passe dans les fils, les ondes, je ne sais pas.
Ouais, tout ça, ça paraît un petit peu magique. J'aime bien employer le mot magique parce qu'on lui met toutes les définitions qu'on veut à ce mot-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile à expliquer. Ça se pratique plus que ça s'explique. Mais avec le temps, je me suis aperçu que je pouvais travailler à distance sur des gens, hein, comme beaucoup de magnétiseurs le font, radiesthésistes. Hein, on va travailler à partir d'une photo, à partir d'un courrier, à partir de ce qu'on appelle un témoin matière. Ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être le doudou de l'enfant, un t-shirt, etc. Ou alors simplement un témoin mot. On va écrire le prénom, le nom, la date de naissance de la personne, ou utiliser une signature. Ou encore mieux, on va simplement parler à la personne au téléphone. En fin de compte, il suffit de se caler mentalement sur cette fréquence-là et on s'aperçoit très vite que le support importe peu, que dès l'instant, toujours, je reviens à notre radio, hein, c'est exactement le phénomène de la radio, on s'installe sur la fréquence et on va pouvoir échanger au travers de cette fréquence, comme là on a pu entendre des gens au téléphone qui sont en même temps sur une radio, et tout ça sont des relais de fréquence, et on va faire la même chose. Et effectivement, on va avoir des gens qui vont demander de l'aide qu'on peut pas recevoir en cabinet parce qu'ils sont éloignés ou parce qu'ils peuvent pas se déplacer, tout simplement. Et bien souvent, on va utiliser avant tout le bon sens. Bon, moi, j'ai 60 ans, alors forcément, j'espère avoir un petit peu de sagesse et de bon sens. Enfin, pas trop quand même. Hein. Mais par le simple bon sens, on va amener déjà une écoute. Ça, c'est important parce que à notre époque, l'écoute, c'est quelque chose, une denrée très rare. Personne n'écoute plus personne et donc faut ramener ça au mieux possible en avant-poste. L'écoute et puis forcément, on va avoir cette faculté de pouvoir envoyer à cette personne directement par une pensée tout à fait positive. Ce que j'appelle moi le cocktail merveilleux dans mes cours, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur la focale de la personne, on va installer un pont vibratoire entre cette personne et nous. En plus, on va installer une visualisation, c'est-à-dire on va voir cette personne dans un meilleur état. On va installer une visualisation du contexte ou de l'état de la personne vraiment précise. Ensuite, on va amener une intention. C'est surtout l'intention qui va être la plus ramener le plus de résultats. Hein. Le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose de fantastique. Et bien souvent, du reste, quelqu'un qui est pas forcément du tout magnétiseur, il suffit que vous soyez vraiment dans une très forte intention d'aider quelqu'un, et vous allez percevoir que ça a une action sur cette personne.
Ça peut marcher donc aussi dans l'autre sens, dans un sens négatif éventuellement.
Hélas, oui, Isabelle.
Il y aurait des mauvaises intentions à distance.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Hélas, oui, c'est comme ça que on va pouvoir parler aussi d'influence négative, de mauvaise intention.
C'est quelque chose de réel selon vous, enfin.
Bien sûr, c'est quelque chose de réel. La mauvaise intention, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Vous savez, il suffit que vous regardiez les automobilistes dans les encombrements, les mauvaises intentions des uns par rapport aux autres quand ils se doublent ou ça avance pas assez. Mais ensuite, il y a les mauvaises intentions familiales, les mauvaises intentions de votre concierge ou autre. Hein, j'ai rien contre les concierges. Mais qui peuvent, ça peut être le délit de sale gueule, comme ça peut être des problèmes de jalousie ou autre. Mais la mauvaise intention, c'est une fréquence négative qu'on envoie à quelqu'un. En chamanisme, on parle d'arc et de flèche. On va décocher une flèche. Et c'est exactement la même chose. On envoie une flèche.
Comment on peut réagir ou se défendre par rapport à ça, justement ? Si on sent qu'on a dans son entourage, proche ou moins proche, des gens qui vous envoient des ondes négatives, comment réagir ?
La première chose à faire, la plus simple, je dirais, c'est de se désactiver de la personne. Mmh. C'est-à-dire ne surtout pas rentrer dans son jeu. Dès l'instant qu'on va rentrer dans son jeu, en général par la peur ou en installant un conflit, là, ça va d'autant mieux marcher. si on se désactive de la personne, comment on se désactive? Ben, on ne la fréquente plus, on répond plus à ses messages ou à ses SMS, on va mettre une vraie distance, on ne va absolument pas rentrer dans le jeu de la personne. Elle se fatiguera très vite quand elle va voir qu'elle décoche des flèches dans le vide. Et elle cherchera, hélas, une autre cible.
Ouais, d'accord. Alors, vous faites aussi quelque chose qui est un petit peu original, c'est des harmonisations de lieux de vie, de maisons, etc. Un peu comme le feng shui, finalement. Enfin, ça me fait penser à ça. Vous allez rétablir les bonnes énergies dans les domiciles, etc.
Oui, bien sûr, c'est ça, Isabelle. C'est tout à fait complémentaire au feng shui. Le feng shui, c'est une science qui nous vient d'Asie, qui va permettre d'équilibrer au mieux un habitat pour qu'il ait une induction énergétique, une circulation énergétique convenable pour les habitants qui sont sédentaires dans cet habitat. Moi, je vais travailler en radiesthésie, en énergétique. Je vais considérer la maison, l'appartement, l'habitat comme une entité à part entière. C'est-à-dire que je vais considérer que cet habitat, il a une âme. Cet habitat, il est multifactoriel. Il va être sous l'influx du sol. Il y a des problèmes telluriques dans le sol. Il va être sous l'influx de la mémoire de ses murs. On parle de mémoire des murs dans mon métier. Considérer les meubles, les murs, les tapis, les moquettes comme des buvards qui vont pomper les émotions qui se déroule dans l'appartement, dans la maison, par les habitants. Un habitat qui a reçu quelqu'un dans de grandes souffrances, de maladies, un habitat qui a reçu quelqu'un qui s'est suicidé dans une grande détresse, ou simplement un couple qui se déchire en dispute, faut absolument considérer qu'il y a toujours cet échange d'informations et que les murs, les meubles ont pompé cette information. Du reste, on le voit assez souvent, si on est un petit peu réceptif, sensitif. Si vous voyagez, parfois, vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel qui vous convient pas du tout. Vous n'avez pas d'explication logique, parce qu'il y a toujours un lit, une table de nuit, une armoire, il y a ce qu'il faut. Mais vous sentez une ambiance. Maintenant, on parle souvent d'énergie, on met le mot un peu à toutes les sauces. Mais on se sent pas bien dans l'endroit. Et bien souvent, c'est parce que cet endroit détient une mémoire qui ne nous correspond pas du tout, on va capter les messages de l'endroit, on va sentir des nausées, une forme de stress, on va mal dormir, on va transpirer, on va avoir des problèmes de transit et autres. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là changer d'endroit.
Alors, que faire dans ces cas-là si c'est votre propre maison, par exemple?
Alors, faut appeler Gérard Grenet.
Ah, oui.
Faut appeler quelqu'un qui puisse connaître ce genre de choses, parce que c'est relativement complexe. Par les multifacteurs qui peuvent désharmoniser un lieu. Comme je vous le disais, il y a les facteurs de géobiologie. La géobiologie, hein, c'est cette science, cet art qui va faire qu'on va analyser les différents courants telluriques, les passages d'eau, les failles, failles sèches, failles humides, tous les problèmes de fréquences électriques, basse tension, haute tension, tous les problèmes de sous-sol, à prévoir le contexte de la construction.
Ça, c'est des choses qu'on peut pas changer, donc parfois il vaut mieux partir carrément, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arranger.
Ce sont des cas extrêmes, ça arrive de temps en temps, ce sont des cas extrêmes où vraiment on ne peut pas faire grand-chose. La plupart du temps, on va trouver des combines.
Ouais.
Voilà, on va avoir
changer les meubles de place.
Et puis il y a un travail à faire par le praticien, par le radiesthésiste, pour équilibrer l'endroit. Alors là, je vais avoir un discours très ésotérique, parce que je peux pas faire autrement. Parce que la plupart du temps, ce travail-là, c'est un travail spirituel. C'est un travail qu'on va exécuter en étroite collaboration avec le gardien du seuil. Le gardien du seuil est une entité à part entière qui garde l'endroit. On va trouver un gardien du seuil dans chaque habitation, chaque appartement, chaque bureau, chaque voiture. Et c'est ce gardien, cette entité qui va valider déjà la présence du radiesthésiste qui vient pour harmoniser la maison. S'il n'en veut pas, c'est très compliqué. S'il veut bien de sa présence et s'installer en étroite collaboration, on va pouvoir ensemble faire un bon travail. Donc on va avoir différents types d'échanges avec la maison. C'est un travail totalement spirituel. C'est vrai que c'est très ésotérique, mais c'est comme ça que ça se passe. c'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué parce que on va travailler d'abord sur une phase géobiologique pour le sol. Ensuite, on va travailler pour désactiver la mémoire des murs. On va vérifier la bonne harmonie du gardien du seuil. Et après, on arrive dans les fameux records d'entités. Voilà, parce que là, on touche le sommet quand effectivement il y a une ou des présences d'entités à l'intérieur d'une habitation, ce qu'on trouve.
Entité, c'est-à-dire les gens qui vivent
entité,
dans
on va parler de fantômes dans le langage populaire, d'accord. On va parler de fantômes.
Ah, oui.
Moi, je parlerais d'entité. Alors, une entité, c'est quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus incarné, mais l'âme de la personne va rester dans l'endroit pour différentes raisons. Là, il y a une multitude de raisons.
Donc, une personne qui a vécu dans cet endroit, a priori.
Alors, une personne qui a vécu dans cet endroit, ou pas forcément, ça peut être une personne qui est rattachée à l'endroit, au lieu. C'est-à-dire qui n'a pas vécu dans la maison, elle a été construite bien après.
Ah, oui,
mais la personne est rattachée au lieu parce que à cet endroit-là, elle a vécu quelque chose de particulier. Alors j'en ai vu de nombreux des cas comme ça. J'ai déjà vu des entités qui étaient rattachées au lieu parce que à l'endroit de ce lieu, elles avaient été, par exemple, torturées ou voilà, des choses très pas gentilles, hein, un petit peu difficiles à expliquer. Je m'étendrai pas
et
à l'antenne.
On sort un peu du magnétisme
c'est un petit peu dur.
Classique du sujet de notre émission, mais il faut savoir que ça existe.
Enfin, mais il faut savoir que ça existe.
Que l'on peut penser que ça existe ou ne pas y croire.
Tout
hein,
à fait.
Reste libre.
Bien sûr, bien sûr. Ça n'engage que moi, c'est que ma vérité.
Voilà, il y a quelque chose. Très bien, une dernière petite pause musicale et un dernier témoignage, et ensuite il sera bientôt l'heure de clore l'émission. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'accepter de témoigner. Vous êtes sur Radio Anguien, donc je rappelle IDFM98.fr. Alors, le magnétisme, et vous, racontez-nous un petit peu votre histoire, comment vous l'avez découvert et où en êtes-vous aujourd'hui?
En fait, c'est quelque chose qui remonte à assez loin, dans le sens où mes parents m'ont emmené voir un magnétiseur quand j'étais enfant. Après, c'est quelque chose qui s'est un petit peu éloigné de ma vie, tout en étant quelque part dans un coin de mon esprit.
Oui.
Et puis, il y a à peu près 5 ans, j'ai réalisé que ce serait probablement important pour moi de me diriger vers ça, mais sans savoir pourquoi ni comment. Ça m'est un peu tombé dessus.
C'est-à-dire que vous aviez refait des séances pour vous-même avant de vous être dit ça ou pas?
Non, aucunement. En fait, c'était lié au décès de ma grand-mère, avec qui j'ai eu un petit échange, on va dire, le jour de son enterrement. Et j'ai demandé de me donner une image de ce qui serait bon que je fasse dans ma vie. Et j'ai eu une image qui me disait guérisseuse.
D'accord. Et jusqu'à présent, vous étiez dans un métier totalement différent, rien à voir avec le magnétisme?
Alors, je suis toujours dans un métier totalement différent pour le moment, en étant commercial.
Ah oui, d'accord. Et donc, vous avez décidé à ce moment-là de vous former au magnétisme, c'est ça?
Alors, ça n'a pas été si immédiat, parce que le problème, c'était que je ne connaissais de personne de précis à l'époque qui serait susceptible de me former. Donc, c'est des rencontres au fur et à mesure qui me renforçaient vers le magnétisme, qui me disaient, allez, les gens me disaient, alors je ne les connaissais pas, me disaient, si, il faut que tu y ailles. Ah bon?
Ah ouais, comme
et
ça.
Jusqu'à la troisième personne qui, elle, connaissait Gérard Grenet, et donc qui a pu me donner ses coordonnées, parce que je ne voulais pas aller voir quelqu'un comme ça de but en blanc que je ne connaissais pas, donc je ne connaissais pas la valeur, donc je ne connaissais pas l'éthique. Donc il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui me soit vraiment recommandé.
Oui. Et votre grand-mère, quel était son lien avec ce type de pratique? Est-ce qu'elle-même était sensibilisée à ça?
Oui, tout à fait. Oui. Bon, elle était couturière de son métier, donc pas spécialement liée à ça dans sa vie quotidienne, mais parmi les différentes sortes de médecine qui existent, ça faisait partie des choses possibles.
Mmh, d'accord. D'accord. D'ailleurs, vos parents aussi devaient être un peu sensibilisés pour vous avoir emmené étant enfant, quoi. C'était un petit peu une tradition familiale, en quelque sorte.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, donc, vous avez suivi plusieurs stages. Ça fait maintenant 4-5 ans que vous avez commencé.
Ça ne fait que 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu temps de maturation pour connaître Gérard Grenet. Et puis, ça fait 2 ans donc, que j'ai commencé à me former en suivant les différents cursus, radiesthésie et magnétisme.
Mmh. Et aujourd'hui, quel est votre objectif? Vous en êtes où par rapport à ça?
Alors, un petit peu comme Aurore qui est intervenue un peu plus tôt, en réalité, je suis dans une phase, on va dire, très clairement d'entraînement auprès de mes proches, auprès de mes amis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est assez amusant parce que 2 ans, d'une certaine manière, c'est très, très court. Et en même temps, c'est assez incroyable le cheminement qui se fait dans ce laps de temps.
Donc, vous sentez que vous arrivez à percevoir les gens différemment, à être plus, je sais pas, plus relié avec les gens, avoir une sensation plus forte ou...
Alors, effectivement, ça se traduit dans la capacité de ressentir les gens quand on est en soins, ou même déjà tout simplement quand on les rencontre. Mais je dirais c'est aussi l'organisation de la vie au quotidien. Tout simplement, pour donner un exemple très concret, il y a encore peu, trouver du temps pour méditer, c'était quelque chose d'impossible. Maintenant, c'est ne pas trouver du temps pour méditer qui est quelque chose d'impossible.
Ah oui. Oui,
c'est une réorganisation des priorités.
C'est vraiment votre vie qui s'est un petit peu réorganisée autour de priorités différentes.
Oui, tout à fait.
Et vous gardez par ailleurs votre travail de commercial, enfin pour l'instant.
Avec grand plaisir,
ouais,
ça n'empêche pas.
Ça n'empêche pas, voilà, on peut avoir plusieurs aspects, plusieurs facettes. Très bien, autre chose à rajouter, Anne ?
Ouais, ce que j'ajouterais, c'est par rapport à ce que ça a amené justement aussi en transformation. C'est assez amusant parce que souvent on a tendance à séparer ce qui est entre guillemets spirituel et ce qui est entre guillemets moins noble. Et en fait, moi j'ai trouvé que ça renforçait l'intensité justement de tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que ça donne une envie de s'impliquer à fond dans tout ce qu'on fait, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle, le magnétisme, peu importe. Il y a un moment où on comprend que tout et source d'apprentissage, et que tout ça, ça se complète.
Mmh. Très bien, merci. Merci pour ce beau témoignage. Restez avec nous, l'émission va bientôt se terminer. Je reviens avec Gérard Grenet, donc on ne va pas avoir le temps de prendre la dernière personne qui voulait nous appeler, mais peut-être pour finir, je voulais vous demander, donc le magnétiseur, pour trouver quelqu'un de bien formé, comment fait-on finalement? Parce qu'il n'y a pas vraiment de statut aujourd'hui du magnétiseur, il n'y a pas de formation officielle, c'est un petit peu compliqué pour savoir où s'adresser.
Effectivement, Isabelle, il n'y a pas de statut. La profession de magnétiseur n'est pas reconnue en France. Celle de radiesthésiste, oui. Donc, moi, je suis formateur agréé, j'ai de la chance. Je suis formateur agréé, c'est-à-dire que dans ma capacité pédagogique de pouvoir former des gens, mais agréé sur une formation qui est pas reconnue. C'est un petit peu ambigu, tout ça. Mais faut simplement avoir de la prudence et du bon sens. En France, nous sommes quand même quelques-uns à proposer des cursus de formation. Moi, ce sont des ateliers de transmission de connaissances. Hein. Ça n'a rien à voir avec une école. Déjà, je ne suis pas agréé pour faire une école. Je n'ai pas la capacité. Et formation, oui, certes, mais avant tout, atelier de transmission de connaissances. Hein, faut surtout se méfier des formations qui considèrent la parole comme unique. Hein, on a un temps d'apprentissage dans toutes ces techniques-là, comme on va avoir un temps pour désapprendre aussi et installer sa propre sensibilité après de travail.
D'accord. Donc il n'y a pas non plus d'association qui regrouperait des magnétiseurs ou de fédérations.
Si, il y a des fédérations, il y a des associations, des syndicats. Si, bien sûr.
Bon, peut-être que le bouche à oreille, c'est encore le meilleur des gages de sécurité finalement.
Moi, c'est ce que je pense aussi. Vous savez, le bouche à oreille, ça c'est quelque chose qui est tout à fait fiable parce que c'est les résultats qui comptent. Mmh. On est bien d'accord. Hein, et les résultats, le bouche à oreille s'indexe tout de suite au résultat. Mmh. Vous savez, un bon magnétiseur en France, il a deux mois d'attente dans son cabinet. Hein. Il y a deux mois de consultation de réservé. Quelqu'un qui est disponible au pied levé tout de suite, faut peut-être un petit peu se méfier. D'un autre côté, quand on est débutant,
quand on débute,
voilà, faut aussi considérer les débutants, parce que considérons bien que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années.
Voilà. Et vous dans êtes les nombreux gens... en France, vous êtes nombreux.
Oh,
vous
on
avez
est
une
nombreux.
Idée
on est assez nombreux. Je pourrais pas vous donner un chiffre précis, je dirais des bêtises, mais on est assez nombreux. Maintenant, à savoir, on considère qui? Les gens professionnels installés en cabinet, les gens qui font ça à titre amical pour leur famille. Ouais. Voilà, il faudrait classer aussi.
Bien sûr, bien sûr. Bien, notre émission se termine. Je voulais juste vous demander un petit mot sur les vibrations particulières de cette fin d'année 2012, dont nos auditeurs ont sans doute entendu parler, le 21-12-2012, là où il devrait se passer des choses un petit peu extraordinaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, effectivement, fin 2012?
Pour ma part, je pense que cette date est surtout un repère. Hein, faut pas s'attendre à des catastrophes ou à des changements dans la matière. C'est l'état de conscience du monde qui est en train de changer. Cette date repère a été en amont, ça fait déjà pas mal de temps que c'est en mouvance, en mouvement, en train de changer. Ça s'accélère, on le voit de mois en mois, ça s'accélère. C'est un niveau de conscience différent. Alors on pourrait parler de niveau de conscience, puis après ça va être les mentalités qui vont changer. Mais déjà le niveau de conscience global de la Terre, c'est-à-dire des humains qui habitent cette Terre, est en train de s'améliorer dans le sens où il devient beaucoup plus, on va devenir de plus en plus complet. C'est-à-dire que ce fractionnement entre les gens qui utilisent leur spiritualité et ceux qui ne l'utilisent pas du tout, ça va de plus en plus disparaître. On va devenir complet. Une femme et un homme complet, c'est-à-dire qui est tout à fait rationnel et cartésien, on l'a vu avec les deux jeunes femmes là. Anne et Aurore, qui sont tout à fait dans des métiers, dans la vraie vie, et en même temps qui méditent et utilisent leur vecteur spirituel. Un être humain, il est fait de quatre vecteurs dominants, un vecteur physique, physiologique, un vecteur émotionnel, un vecteur mental et un vecteur spirituel. On va vers ça, on va vers ça.
D'accord, donc il n'y a aucune raison d'être inquiet. Au contraire, surtout on va avoir un meilleur niveau de conscience.
Bien sûr,
pour
bien
tout
sûr.
Le monde.
Il faut entretenir cette pensée. De toute façon, la pensée positive, c'est la clé de la réussite.
Voilà. Merci beaucoup, Gérard Grenet.
Je vous en prie,
d'avoir partagé votre expérience et votre connaissance du magnétisme. Et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la prochaine émission, donc à nos auditeurs, vendredi 14 décembre, où nous parlerons du coaching par les chevaux. Merci beaucoup et bonne continuation à tous.